Pour le moment, nous accueillons Isabelle au 3921. Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir Olivier. Merci de m'accueillir sur l'antenne.
Je vous en prie. Quel âge avez-vous Isabelle ?
J'ai 37 ans.
37 ans. Et est-ce que vous voulez me dire de quelle région vous m'appelez ?
Ça va être un petit peu compliqué. On va dire que je suis dans le sud de la France.
Le sud, c'est voilà. Vaste. C'est très c'est vaste. C'est très beau et très voilà. Vaste. Très bien.
Exactement.
Très bien. Qu'est-ce qui vous amène, Isabelle ?
Voilà. Donc, j'ai contacté cet après-midi. Donc, j'ai déjà remercié mille fois votre équipe pour leur réactivité, mais je le refais encore. Parce que je leur ai écrit cet après-midi. Il était à 14h et j'ai une réponse à 14h30 suite à mon mail. Voilà, je vous appelle parce que malheureusement heureusement je suis la maman de deux enfants qui sont déjà grands. Ma fille Ena qui a 17 ans, qui aura 18 ans au mois de juillet.
Oui.
Et mon fils Nicolas qui a 15 ans et demi à peu près.
D'accord.
Et donc quand je dis malheureusement, c'est parce que ma fille qui est née après avoir fait deux AVC en ténato, donc qui est née avec des troubles moteurs et neurologiques assez importants.
Oui.
Qui a passé toute sa vie jusqu'à présent à se battre pour s'insérer dans la société.
Oui.
A vécu, a subi il y a 6 mois de ça, donc entre octobre et novembre 2020, une atrocité, un calvaire sans nom. Donc c'est-à-dire que comme c'est une jeune fille qui manque d'amis et qui a très grosse difficulté à se faire des amis, ben, dès que quelqu'un s'intéresse à elle, elle fonce.
Oui.
Et donc là, elle a fait la mauvaise rencontre. Voilà, elle a fait la rencontre de garçons qui l'ont contactée via le réseau Snapchat,
oui.
Des garçons qui vivaient pas très loin de chez nous, et donc sur Marseille, là je peux le dire, à ce moment-là on était sur Marseille, on a toujours vécu sur Marseille,
oui.
Et donc nous on habite un quartier plutôt de bonne réputation, hein. On n'est pas dans les gros quartiers nord, où malheureusement il se passe énormément de choses dramatiques régulièrement, nous c'était un quartier plutôt tranquille.
Mais je tiens à préciser une chose, j'ai passé un mois... en tournage dans les quartiers nord de Marseille. Et je peux vous dire que j'y ai rencontré vraiment
des gens formidables.
Exceptionnels. Et dans ces quartiers, parce que l'État a démissionné en grande partie dans ces quartiers. Alors, l'État a démissionné, pas partout, et je dirais pas dans tous les secteurs, parce que l'État continue d'investir dans des maisons de quartier. Hein, ça coûte de l'argent, hein, tous ces animateurs, tous ces jeunes qui...
Les maisons pour tous.
Voilà, il y a aussi un investissement de l'État dans les médiathèques, dans en tout cas tout ce qui peut éduquer les jeunes. Et j'ai rencontré d'ailleurs à l'époque des jeunes qui, avec une animatrice, faisaient un atelier de rap, mais c'était formidable de voir la créativité et le talent de ces jeunes de quartier, c'était exceptionnel. Et surtout, je tiens à préciser que dans les quartiers nord de Marseille, on voit une solidarité entre tous ces gens qui sont laissés à l'abandon, une solidarité qui a toujours existé dans les quartiers populaires, mais qui est plus que là, dans ces quartiers nord de Marseille. Donc, on les salue parce que j'y ai passé un excellent moment et que j'ai des amis.
Alors c'était absolument pas discriminatoire hein, ce que je disais par rapport
c'est moi,
ce qu'on peut se faire comme idée de Marseille, on dit toujours quartier nord.
Oui, exactement.
Fait, voilà. Donc malheureusement oui quand même malgré tout justement c'est des quartiers qui au niveau de l'urbanisme a été laissé à l'abandon pendant très longtemps, donc qui n'ont pas de transport direct avec le centre-ville et le reste de la ville, ce qui fait qu'ils ça les met souvent en marginalité. Donc c'est pour ça quand vous parliez de créativité, c'est parce qu'ils ont obligé les pauvres de faire preuve de beaucoup de créativité pour pouvoir s'en sortir. Mais malgré tout, ils sont aussi gangrénés par, et ça il faut pas le mettre de côté non plus, c'est une réalité, par des réseaux de drogue et j'en passe qui sont là et qui tiennent la main quand même,
oui,
hein,
oui.
Des choses de ce qui se passe. Et donc nous, ce qui nous est arrivé, c'est parce que justement une petite résidence pas très loin de chez nous, en 3 ans, elle a complètement sombré dans la déchéance.
Dans le trafic de stupes.
Dans le trafic de stupes et d'armes et de meurtres. Hein. Tous les 3 mois, un meurtre par arme blanche.
Oui.
Donc, c'est assez terrible. Et moi, mes enfants, tout simplement, ils avaient comme interdiction de ne pas fréquenter, même si c'est les marginalisés,
oui.
Mais de ne pas fréquenter les gens, en tout cas de ne pas traîner vers là-bas.
Oui.
Voilà. Donc moi, ma fille, comme elle est en manque d'amis, ben, quand ces garçons la contactent sur Snapchat,
alors quand vous
elle
dites
brave,
que,
elle...
lorsque vous dites
Oui.
que votre amie, votre fille, pardon, a du mal à avoir des amis, ça se traduit comment en fait? Elle a du mal à, elle a du mal à établir le contact. Pourquoi? Parce que elle a du mal à comprendre l'humour des autres. Elle,
Exactement.
oui, elle est
Tout à fait,
susceptible.
voilà. Alors, c'est surtout que ben, elle n'acquit pas le, enfin, elle ne comprend pas le second degré,
Oui.
déjà, donc elle se vexe très, 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 très facilement.
Oui.
Et elle a du mal à décoder surtout les intentions des autres.
D'accord.
Donc,
d'accord.
À la fois, ça la rend extrêmement vulnérable parce qu'elle peut ne pas comprendre qu'en fait, que quelqu'un ben, lui veut du mal, là, même si c'est clair.
Oui.
Ou à l'inverse, croire qu'on lui veut du mal lorsque ce n'est pas le cas. Voilà.
D'accord.
Donc, ça rend ses relations avec les autres très, très compliquées. Donc, par contre, elle est très sociable. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de difficulté à aller voir les autres pour entrer en interaction avec eux. Sauf que il y a deux choses qui se passent. C'est que ma fille n'a pas de déficience intellectuelle, mais elle a quand même voilà, des difficultés et dans le langage, et dans la compréhension, et dans la mémoire, qui fait que beaucoup, quand ils la rencontrent pour la première fois, ils parlent avec elle un peu plus d'une minute, se rendent compte qu'il y a comme des lacunes, on va dire.
Oui.
Donc souvent, malheureusement, surtout les jeunes de son âge...
Oui. Qui sont loin d'être tendres entre les uns entre les autres.
Voilà,
hein. Ouais.
Exactement. Donc elle a vécu l'harcèlement scolaire pour le peu qu'elle a pu y aller, parce qu'elle a beaucoup été en soins entre l'école et les hôpitaux. Mais voilà, ils ne sont pas intéressés, ou alors ils vont se servir de ces vulnérabilités pour les plus méchants, et les plus gentils ben, vont être amis avec eux. Alors il suffit que... Elle attire aussi beaucoup les personnes, en fait, les adolescents qui ont des, comment dire, des vulnérabilités aussi, c'est-à-dire ou d'ordre affectif ou des problèmes environnementaux, familiaux, voilà. Donc peut-être parce qu'ils ils sont plus aptes à comprendre les difficultés de ma fille, mais quoi qu'il en soit, n'importe comment, les amitiés ne durent pas. Voilà, il y a toujours une raison pour que, au final, ben, ça tourne au conflit.
Il y a toujours une embrouille.
Voilà.
Ouais.
Il y a toujours une embrouille. Voilà. Mmh. Donc,
ce qui est extrêmement fatigant pour vous, je suppose, parce que ça vous fait de la peine, sans doute.
Bah, ça me fait beaucoup de peine,
ben
bien
oui.
sûr.
Ouais.
Ça me fait beaucoup de peine. Et puis, oui, parce qu'après, ben, il faut qu'elle ait des boucs émissaires. Et le plus beau bouc émissaire qu'elle
ben
a,
oui, c'est maman.
C'est maman.
Ben ouais.
Exactement.
Mm-hmm.
Donc, oui, puis parce que surtout, elle a un fort caractère. Hein, parce
mm-hmm.
qu'elle a déjà ben, vécu, enfin, dépassé des épreuves extraordinaires pour son âge. Déjà, il était dit qu'elle ne marcherait jamais. Elle marche, elle saute et elle danse. Voilà, donc ça, c'est formidable.
Génial,
il était dit que, voilà, elle ne saurait jamais lire, elle sait lire, même avec beaucoup de lenteur, mais elle sait lire et elle comprend ce qu'elle lit, donc c'est extraordinaire.
Mais je vais vous dire, je vous interromps, vous savez, Isabelle, elle va s'en sortir, votre fille, hein. Il faut, et je pense que je prêche une convaincue, mais elle va
oui.
s'en sortir parce qu'il faut lui faire confiance, parce
oui.
qu'elle a tellement fait de choses, là, à prouver qu'elle a vaincu, elle est passée par plein d'épreuves. C'est, elle trouvera sa place dans la société. Elle trouvera un copain qui sera peut-être son mari. Elle trouvera sa place. Ces enfants-là, il faut leur faire confiance parce qu'ils mettent plus de temps que les autres à trouver leur place. Mais vraiment, moi, j'ai un copain, mon meilleur ami, et est à la protection judiciaire de la jeunesse. Il s'occupe bah, des mineurs hein,
ouais.
qui sont à la dérive. Bien évidemment, dans tous ces mineurs, il a constaté que beaucoup de ces mineurs étaient des enfants différents, qui souffraient de troubles envahissants du développement, qui souffraient d'un tas de TD, vous savez,
TDAH,
voilà.
Bien sûr.
Et finalement, tous ces enfants-là, qui viennent de milieux qui ne sont pas aisés, ou qui ne sont même
oui.
pas de middle class, ben ces enfants-là, dans les classes, ils n'ont pas été détectés, ils n'ont pas été diagnostiqués, et puis ils sont passés très vite pour les vilains petits canards, et puis ben, ces vilains petits canards, on les retrouve à faire des conneries, à voler des mobylettes,
bien
à faire
sûr.
Du trafic de stupes, à faire
bien
des
sûr.
Choses plus graves parfois. Et il ne faut pas oublier que ces jeunes-là, ben, si on s'était attaqué à ces problématiques-là, peut-être ils n'auraient pas eu le destin qu'ils ont. Mais voilà, je faisais juste un aparté parce qu'il y en a beaucoup de ces jeunes qui ont des soucis.
Qui ne sont pas détectés, tout à fait. Alors c'est vrai que nous, on s'est battus, enfin je me suis battue surtout, même si je suis entourée de ma famille. Je me suis battue, j'ai passé 15 ans à me battre justement avec les réseaux, avec Réseau 10, avec le CERTA, avec des professeurs de la Timone, avec le service du professeur Poinceau, enfin avec vraiment toute une équipe pour que justement soit créé, parce qu'on ne peut pas faire autrement, des cases pour les enfants justement comme ma fille, oui. Qui ne rentrait dans aucune case de la MDPH et de l'administration, enfin tout ce qui s'ensuit. Oui. Donc voilà, on s'est battue avec d'autres parents, avec des associations, avec l'association Soliane, voilà, pour que cela existe. Alors c'est vrai que ma fille, elle a tendance à dire, parce qu'elle est très très consciente de ce qu'elle est, du parcours qu'elle a vécu jusqu'à présent, oui. Et donc elle a tendance à dire, bah, heureusement que j'étais là, parce que si j'avais pas été là, tout ça n'existerait pas encore.
Oui,
voilà.
Donc
voilà, elle a bien raison. Ouais, ouais, elle a bien
saisi. Qu'elle était au cœur de ça.
Ouais, ouais, qu'elle était au cœur de ça. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quand elle a un peu le moral et qu'elle se dévalorise pas, parce que la société a tendance à la dévaloriser, donc elle se dévalorise aussi, elle a tendance à dire, mais moi de toute façon je suis une personne extraordinaire, ce qui est vrai. Voilà, donc elle a beaucoup de ressources, elle a mis en place beaucoup de stratégies au fur et à mesure du temps pour justement s'en sortir. Donc comme vous me dites, je suis sûre qu'elle a trouvé sa place, j'en suis convaincue moi aussi. Seulement je vous cache pas aussi, Olivier, que j'aimerais qu'on arrête peut-être de lui mettre des barrières et de nous mettre des barrières, et qu'on la laisse un petit peu tranquille pour trouver sa place. Voilà. Bon,
et puis en
donc,
plus, on va en revenir à ce qu'elle
dire,
a vécu,
voilà, au sujet principal.
Pour bien comprendre que cet enfant, elle a besoin de plein d'amour, de plein d'attention, mais qu'elle est, elle était en danger, en grand danger, il y a encore peu.
Tout à fait. Donc, voilà, donc une période où là, elle est très très seule, parce que en mois de septembre, on n'a pas réussi pendant l'été à la réorienter, parce que le lycée où elle est et la section qu'elle avait choisie en seconde ne lui convenait absolument pas. Donc elle arrive en première et puis elle ne va pas du tout en cours après le jour de la rentrée, parce que ça ne lui convient pas. Voilà, déjà, parce que les filles qui sont dans sa classe, c'est des filles avec qui déjà elle a eu des problèmes l'année d'avant, enfin bon, bref. Oui. Et donc elle est très seule et elle est enfermée à la maison. Donc quand elle reçoit ces messages de garçons qu'elle ne connaît pas, qui s'intéressent à elle, tout de suite, elle répond, et même s'ils viennent donc de la résidence où normalement elle ne doit pas avoir de contact, et puis elle s'en fait des amis, et puis ils finissent par lui dire, rejoins-nous. Donc elle les rejoint, puis ils sont quatre, et puis parmi les quatre, il y en a un qui lui plaît beaucoup, puis ça devient son petit copain. Donc il faut savoir que ma fille, au niveau affectif, du coup, quand elle a un petit copain, c'est tout de suite l'amour de sa vie.
Mais oui, bien sûr.
Donc ça va très très vite. Et donc ça se passe très bien pendant un laps de temps, peut-être quelques semaines, deux, trois semaines, où ils font des foot ensemble. Alors ils sont super gentils et prévenants en plus, parce que elle a des difficultés pour courir tout ça, mais ils font fi de ça, surtout les garçons, que normalement le foot c'est super important, donc ils la font quand même jouer avec eux. Donc elle est super heureuse, ça la valorise. Et ils lui payent des snacks et tout. Enfin, pour les jeunes de cette génération, c'est super important. En tout cas, pour elle, c'est ce qu'elle me disait.
Oui.
Et du coup, un jour, le petit copain lui dit, tu sais, j'ai aménagé la cave de mon bâtiment. Il y a une télé, il y a un canapé et tout. On va aller se caler. Donc, ils vont se caler là. Et puis, tout se passe bien. Donc, quelques jours après, il lui dit, t'as qu'à nous rejoindre. On est à la cave. Donc, elle y va. Et là, il y a les garçons qu'elle connaît bien, quoi, tout le petit groupe.
Oui. Qui sont des garçons qui ont quel profil?
Alors, ils ont quel profil? Donc, comment dire? Alors déjà, parce que j'ai eu droit à beaucoup de réflexions racistes, donc je tiens à dire que quand on m'a beaucoup dit « allez encore, c'est des Mohamed et ce genre de choses », alors moi, je ne suis pas du tout là-dedans. J'ai dit « non, justement, c'est un Alex, un Manu, enfin voilà, c'est... » Alors, quel profil ils ont? Bon, quand même, je sais que le cadre est familial et à chaque fois, c'est des familles dysfonctionnelles quand même.
Oui.
Où il n'y a pas de papa, où il n'y a pas de maman parce qu'il y a eu des drames familiales, où ils sont élevés par les grands-parents, ou alors ils sortent à peine de foyer et l'éducation est reprise à la maison par les parents qui s'en sortent à peine. Enfin, voilà, déscolarisés pour la plupart depuis longtemps. Donc, et puis surtout, ce sont des guetteurs et des dealers de drogue, et que mon fils connaît très très bien. Mais ça, je l'ai su que plus tard.
D'accord.
Donc, du coup, quand ils lui disent, reviens à la cave, on est là-bas, de ça, rejoins-nous, elle y va sans crainte. Et arrivé là-bas, ben, le petit copain, il lui dit ben, tu sais, si tu m'aimes, ben, j'aimerais bien te mater. Je vais dire les mots comme ils sont, excusez-moi. Hein. J'aimerais bien te mater en train de faire une gâterie à un tel et coucher avec lui. Et elle lui dit, alors déjà, elle n'avait jamais eu de rapport, elle lui dit, mais. Non, j'ai pas envie de faire ça, ça m'intéresse pas. Et lui dit, bah, si tu m'aimes, tu le feras. Parce que si tu ne le fais pas, c'est que tu m'aimes pas, donc je te quitte. Voilà. Donc elle s'exécute. Et au moment où le soir elle est rentrée à la maison, elle l'appelle un peu en pleurs, elle était très mal, en lui disant ce qui s'est passé tout à l'heure, je me sens très très mal, ça m'a pas plu du tout, déjà ça m'a fait mal, et puis
Mon Dieu.
voilà, je comprends pas ce qui m'est arrivé, quoi. Voilà. Donc là il lui dit ah bon, c'est étonnant, bah écoute, reviens demain et on en discute. Donc le lendemain, elle y retourne, sauf qu'ils sont quatre. Toujours ils sont pas seuls tous les deux, et là, il verrouille carrément la porte derrière elle. Et donc elle en voit deux qui sont en train de jouer avec un énorme couteau de chasse. Donc elle comprend laquelle est prise au piège, quoi. Et toujours pareil, le petit copain qui lui dit, parce qu'elle avait dit, je croyais qu'on devait parler, et lui lui dit, bah non, t'as vu ce qu'on a fait hier, c'était trop bien, on veut continuer, nous. Donc, faut savoir que s'est rajouté un garçon, donc un jeune garçon de 15 ans, au groupe, qui commence à dire, mais moi je veux pas participer à ça. Et il lui dit, bah t'as pas le choix. Et si t'es un homme, tu vas le faire, parce que si tu le fais pas, ben, en gros, on te casse la gueule, quoi.
Quelle bande de petits.
Ouais, voilà.
Ouais.
Donc, du coup, bon ben voilà, il la viole encore donc à plusieurs. Et il pousse ce jeune garçon à la violer aussi. Donc, il filme à ce moment-là le
D'accord.
viol
Il le
et
diffuse.
nous et le diffuse, ouais. Et donc nous, on sera mis au courant, on va dire un mois et demi plus tard, parce que la vidéo arrivera jusqu'à mon fils. Mais entre-temps, se passe ben, beaucoup de choses, hein. Donc, il se passe que après ce second viol. Bon, déjà, il faut savoir qu'en plus, ils lui ont proposé, parce que ça a duré pas mal de temps, hein, ça a été long, donc ils lui ont proposé, ils ont fait venir un jeune garçon, un petit enfant de 5 ans, voilà, en lui disant, ça serait cool de faire une vidéo avec toi et lui, quoi. Donc,
Mon Dieu.
oui. Donc, évidemment, ma fille se met à hurler, elle leur dit que c'est inadmissible et que jamais de la vie elle toucherait un petit garçon. Et là, ils lui disent, bah, t'es pas cool, bien sûr, quoi, voilà. Puis rassure-toi, il a l'habitude, donc vous vous rendez compte.
Et ils ont fait ça, ils ont fait ça.
Et ils y sont pas arrivés,
Ah bon.
ils ont finalement, ils sont pas allés jusqu'au bout, ils l'ont laissé partir, le petit garçon, quoi. Pas ma fille, mais le petit garçon, oui.
Donc ça a duré pendant un mois et demi, ça, régulièrement.
Donc, oui,
Et
mais
mais
d'une autre manière.
elle y retournait à chaque fois.
Ouais, en fait, après ça, ils ont dit, évidemment, si tu parles, on te tue, et vu qu'on sait où tu habites. Et puis, on connaît très bien ton petit frère et ta mère, donc on les tue aussi. Par la suite, elle a commencé à recevoir énormément de sollicitations via Snapchat d'hommes qu'elle ne connaissait pas. Quand je dis des hommes, c'est des vrais hommes, hein, c'est pas
Oui, oui,
des ados.
oui.
Et justement, ces agresseurs l'ont recontacté à ce moment-là en disant, bah tu vois, tous les mecs là qui viennent te parler, bah tu les refuses pas, parce que et tu vas faire ce qu'ils te disent, parce que si tu refuses, on te le redit, on tue ton frère et ta mère. Donc du coup, ouais, pendant un mois et demi, elle a été obligée, lorsqu'elle a de très 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 grosses difficultés à se repérer dans le temps et dans l'espace, elle a été obligée, ben, de se rendre à ses rendez-vous. Là où l'attendait à chaque fois des hommes pour la violer, hein,
Mais
parce que dans ce cas-là, c'est sous
où en
contrainte.
fait, je suppose que
À
les.
des endroits différents, hein,
Oui, mais
de Marseille.
est-ce que y avait aussi derrière une histoire de prostitution
Ben, c'est la
organisée?
question. Ben, ça ressemble à ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils ont payé pour le service ou tout simplement les agresseurs ont fait tourner les. Parce qu'il y avait aussi. Par SMS. Donc, le numéro de ma fille et son Snapchat en disant, ben voilà, la porte est ouverte, profitez-en, on va faire en sorte qu'elle vienne, quoi.
Mon
Voilà.
Dieu, mais quelle
On se pose la
horreur.
question, quoi. Donc, on se pose la question si c'est vraiment un réseau organisé où il y a vraiment de l'argent, des transactions, ou voilà. Et ça, c'est une question que je demande aussi aux policiers, évidemment, de répondre. d'arriver à répondre à cette question. Donc, voilà, oui, quelle horreur quand, quand elle y est allée. Notamment une fois, elle m'a dit que c'était à vomir. La crasse de l'appartement et les hommes eux-mêmes étaient très 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 sales.
Mais il y avait, plusieurs hommes.
Oui, à chaque fois.
Oh là là.
Donc elle m'a dit, hein, quand, à chaque fois qu'elle ressortait, en plus, elle vomissait. Et nous, c'est vrai que pendant toute cette période-là, on l'a vu sombrer, mais littéralement. Et on se posait la question avec ses médecins, parce que ma fille, elle est suivie depuis toujours.
Oui.
Donc, voilà, donc elle a été suivie dans un hôpital spécialisé pour adolescents. Et un dispositif soins adolescents, ça s'appelle. Et avec ses médecins, j'ai essayé de comprendre. Déjà,
elle ne disait rien. Elle avait peur.
Elle disait rien. Elle avait très, très peur. Donc, en fait, déjà, elle ne mangeait plus. Donc, comme elle souffre de troubles de l'alimentation, on s'est dit, allez, elle retombe. Là, ça y est, c'est une période où elle refait de l'anorexie.
Oui.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet les mesures en place dans ces cas-là qu'on fait habituellement quand ça arrive? Oui, sauf que pour ça, il faut qu'elle aille assez suivie et elle ne voulait plus y aller.
Sophie, pardonnez-moi, Isabelle, je vais vous interrompre juste parce que on va laisser passer l'info tranquillement. Je pense qu'on va reprendre tous les uns et les autres un peu notre souffle aussi parce que ce que vous nous racontez est dur. Et puis, on va continuer à évoquer l'histoire, votre histoire à vous trois, celle de votre fille, mais de son frère et à vous aussi, après l'info, d'accord ?
Bien sûr, je comprends. Tout à fait, à tout à l'heure.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 7 minutes, vous nous rejoignez maintenant et vous êtes bien puisque vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et que nous sommes ensemble encore jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute et peut-être aurons-nous le plaisir d'échanger ce soir ensemble ou demain ou après-demain puisque nous sommes ensemble toute la semaine, comme vous le savez, avec, comme Julien nous le disait il y a quelques minutes, le match de l'équipe de France. C'est le grand retour attendu de Karim Benzema demain soir contre le Pays de Galles. Horaire de la Libre Antenne modifié puisque demain soir, la Libre Antenne démarrera après l'émission de sport consacrée à ce retour et surtout au match de l'équipe de France puisque ils sont 11, n'oublions pas, à courir sur ce terrain. Donc Karim Benzema et les autres. En tout cas, nous nous retrouverons à 23h30. J'en profite aussi pour embrasser bien fort Raymond qui nous écoute là-bas dans le sud-ouest. Voilà, on voulait l'embrasser bien fort et lui dire qu'on pensait à elle. Nous sommes toujours avec Isabelle. Isabelle qui nous raconte l'innommable ce soir, ce qui est arrivé à sa fille de 17 ans. D'abord violée à de multiples reprises par celui qui était censé être son petit ami. Et puis ensuite, l'horreur n'avait pas atteint son paroxysme puisque des adultes se sont mis via sans doute cette bande de voyous parce que en vous écoutant Isabelle, j'ai du mal à croire que ces voyous n'avaient pas organisé un système aussi d'argent derrière tout ça, parce que pourquoi l'aurait-il contraint?
Quel intérêt?
Mais oui, voilà. Donc,
tout à fait.
On va continuer à vous écouter. Peut-être, voilà, on est au bout de l'horreur, là, en fait, lorsque elle a ses troubles donc d'anorexie, elle ne dit rien à ses médecins, elle ne vous dit rien, vous la voyez dépérir.
Oui.
Je suppose que bien loin de vous, l'idée qu'il lui arrive un truc pareil. À aucun moment, vous ne faites le lien avec son petit ami ?
Pas du tout, parce que déjà, on n'était pas au courant qu'elle avait un petit ami.
D'accord.
Nous, elle nous disait, à chaque fois qu'elle sortait, je me suis fait un groupe de copains, rassurez-vous, ils sont super gentils. On fait du sport ensemble, on fait des foot, on mange ensemble. Ça nous paraissait super sain, quoi. On n'avait pas d'idée. Alors, c'est vrai que je suis toujours tentée de savoir un peu avec qui, quand même, entre guillemets, elle traîne. Mais là, je l'ai laissé un petit peu libre le temps que la relation d'amitié, entre guillemets, se construise avant d'être un peu trop pesante. Parce que comme malheureusement avec elle, ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça dure
conflit,
peu de temps.
Oui, le conflit arrive vite en plus.
Donc, par un petit peu par lassitude, et puis aussi pour la laisser un peu tranquille et qu'elle ait un peu d'autonomie aussi, je ne me mêle pas systématiquement... De ces histoires. C'est un peu normal, il faut qu'elle ait... Puis elle a 17 ans, parce qu'elle a la maturité, on va dire, elle a l'expérience d'une jeune fille de 17 ans, même si elle a la vulnérabilité d'une enfant au niveau affectif et émotionnel, elle a quand même... elle a la conscience de certaines choses, d'une jeune fille de 17 ans. Donc,
elle a, à votre avis, l'âge mental d'une gamine de quoi? De 12 ans, de 11 ans, de 14 ans?
Oui, on va dire qu'effectivement, émotionnellement, on a comme une jeune fille de 11-12 ans.
D'accord.
Voilà. Mmh. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est beaucoup très paradoxal avec ma fille. Et pourtant, en même temps, elle a des besoins et elle est très bien consciente des besoins qu'elle a à 17 ans.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est très paradoxal et c'est pour ça aussi que ça génère beaucoup de conflits entre nous. Parce qu'à des moments, elle aurait envie d'être beaucoup moins protégée que ce qu'on la protège. Et encore, apparemment, ce n'était pas suffisant. Et en même temps, elle voudrait plus de liberté, mais elle est très insécure, en fait. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, du coup, pour en revenir à ce qu'elle a vécu, malheureusement, à cette période-là, elle a touché vraiment le fond, la pauvre, au moment où elle finit par appeler quand même un copain qu'elle pensait avoir.
Oui.
Et que je connaissais bien, qui était poli, qui était bien sous tout rapport. Et elle l'appelle, et non, pas du tout. Elle l'appelle à l'aide et au secours, et lui dit, quand elle lui raconte, il lui dit, mais on va leur casser on va leur casser la gueule.
Oui.
On va te venger. Pour ça, ce serait bien que ce soir, tu viennes à la soirée de mon cousin. On vient te chercher, tout ça. Et donc, nous, elle nous ment, parce qu'elle sait très bien que ça, par contre, pour l'instant, on ne la laisse pas encore aller en soirée. Il est jeune de son âge. Et du coup, elle nous ment, elle nous dit, je vais dormir chez ma copine Jessica. Elle a une copine quand même de classe, où de temps en temps, c'est pas tout le temps la dispute. Et de temps en temps, elle va dormir chez elle. C'est peut-être la seule amitié qu'elle avait vraiment à ce moment-là. Donc, du coup, on lui dit, ben oui, ça va dormir chez Jessica ce soir. Et puis voilà, on n'a pas remis en question. Et puis, en fait, non, elle est allée donc à cette soirée. Et là, guet-apens. C'est-à-dire que Thomas était au courant, en fait, de tout depuis le début, et on pense que c'est lui, et donc son copain, là, son ami, soi-disant ami, on pense que c'est lui qui a donné ses coordonnées.
Carrément,
Snapchat.
Carrément.
Ouais.
D'accord.
Oui.
J'espère qu'il va bien ramasser celui-là aussi.
Oui, j'espère aussi. Et ouais. Donc, guet-apens, et là, elle arrive donc chez Jean-Pierre, où elle n'était jamais allée. Et là, elle voit deux couples quand même de gens qu'elle connaît, mais qui ne restent pas, qui s'en vont vite. Après son arrivée, et donc elle se retrouve seule avec cinq hommes, dont Thomas, qu'elle ne connaît pas.
Cinq garçons ou cinq hommes?
Hommes.
D'accord.
Donc on va dire deux jeunes adultes, entre 18 et 20 ans.
Oui.
Et les trois autres qui sont des hommes mariés avec enfants.
D'accord, que vous connaissez?
Non.
Comment savez-vous qu'ils sont mariés avec enfants?
Parce qu'ils lui ont dit. Parce qu'ils ont discuté devant elle.
D'accord.
Quand en fait, elle a compris que elle était cernée et qu'il fallait qu'elle fasse tout ce qu'on lui disait de faire. Mmh.
Mais Thomas, là, il sait qui sont ces gens-là.
Tout à fait, bien sûr.
D'accord. Donc, il va falloir qu'il parle. Je suis un peu pressé, bien évidemment, parce que Natacha connaît votre histoire, mais moi, je ne la connais pas. Ce soir-là, c'était à nouveau l'horreur. Est-ce que c'est la dernière fois?
Non. Oh. Donc là, c'est quand même l'horreur de chez horreur, parce que là, elle sera quand même séquestrée toute la nuit, attachée au lit, fouettée, battue.
Que ces gens qui font des trucs pareils, c'est...
Donc en fait, elle pense que tout simplement Thomas s'est vengé, parce qu'en fait, c'était pas son ami. C'était un ex-petit copain avec qui elle avait cassé. et qui se vengeait. Voilà, c'est ce qu'elle pense, elle.
Enfin,
donc,
écoutez,
avec le
pardonnez-moi,
recul.
On évoque beaucoup les mineurs en ce moment, mais
Oui.
là, on parle de mineurs de 15 ans mais qui méritent, même si ce sont des mômes de 15 ans, qui méritent
Ah, mais
franchement
là,
d'être
ils ont
punis.
18 ans, eux. Il n'y en a qu'un qui a 15 ans. Hein. Il y en a deux qui avaient 17 ans à l'époque, ont peut-être 18 ans maintenant, et tous les autres, ils n'ont plus de 18 ans. Hein.
D'accord.
Donc, on ne parle pas. Il n'y a qu'un petit jeune de 15 ans qu'on a forcé à vivre. Voilà. Donc, pour lui, super, la première expérience de sa vie, parce que c'était sa première expérience.
Super, parce qu'il va être aussi inculpé de viol en
ouais.
réunion et que c'est très grave.
Tout à fait.
Il est passible de 15 ans de prison, je crois, ou 20 ans.
Oui, tout à fait. Et donc du coup. Voilà, donc cette nuit-là, nous, en fait, en la voir revenir à 7h30 du matin, chose pas normale, vu que normalement elle dort chez sa copine et qu'on sait que les jeunes filles, elles font la grasse matinée quand elles sont ensemble, parce que ça parle toute la nuit et tout ça, quoi. Et donc, quand on la voit arriver, mais qu'est-ce que tu fais là? Et je vois vraiment qu'elle est complètement défaite. J'ai jamais vu ma fille dans cet état-là, parce qu'il faut savoir qu'avec les traitements qu'elle prend au niveau neurologique, évidemment, l'alcool est proscrit et le cannabis est proscrit.
Bien sûr.
Et là, ils l'ont forcée à boire à outrance et à fumer à outrance. Donc, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont pu l'attacher. Et voilà. Donc, elle a expliqué que cette nuit-là, ça, elle l'a expliqué quand elle a été auditionnée. Elle a expliqué qu'elle s'évanouissait régulièrement pendant la nuit. C'est sûrement ce qui lui a permis de tenir. Et donc, quand il l'a enfin détachée au petit matin, elle saignait. Elle avait très, très, très mal. Mais elle est rentrée quand même toute seule à pied jusqu'à la maison.
Donc, est-ce qu'elle a pu identifier les endroits où elle était, ce dernier endroit?
Oui.
D'accord.
Oui. Oui, oui.
D'accord.
Donc, ça ne s'est pas fini là, malheureusement. Donc, moi, j'ai quand même vu les traces ce jour-là, les bleus, les suçons. Et donc, je lui dis, c'est pas avec Jessica que tu as fait ça, qu'est-ce que tu as fait cette nuit, où tu étais. Et donc, elle me dit, et malheureusement, je l'ai cru. Parce que ça tenait la route et qu'elle me connaît très bien. Donc, elle me dit, bah, en fait, tu sais, chez Jessica, il y avait son cousin que j'aime bien. Donc, on s'est rapprochés cette nuit. Voilà, il m'a fait des bisous, donc il m'a laissé des traces. Et puis, si je t'avais dit juste avant d'aller chez Jessica que j'étais tombée dans les escaliers, jamais tu m'aurais laissé y aller, ce qui est vrai. Donc, parce que comme on a mis des années à faire en sorte que ses jambes tiennent droites et qu'elle est pleine d'arthrite dans les jambes, on fait en sorte de faire attention, très très attention, voilà. Donc, du coup, elle me dit, ben voilà, tu vois, j'ai dit oui, t'as raison, tu n'oserais pas aller, donc je suis en colère contre toi et je l'ai punie ce jour-là. Donc, ça ne s'est pas arrêté là, oui, par la suite, elle a eu un autre rendez-vous. Et là, c'était un garçon qu'elle connaissait très 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 bien, et du coup, elle n'a pas compris tout de suite qu'il était en lien encore avec C'est comment on appelle ça? C'est commanditeur? Je ne sais pas comment on peut les appeler.
C'est bourreau. Vous pouvez les appeler, c'est
bourreau.
Ouais.
Voilà, c'est bourreau. Et du coup, elle lui va en confiance. Et c'est lui, en fait, hein, tout simplement, qui lui dit. Hein, qui lui dit, bah, viens, on va à la villa. Elle ne savait pas où c'était du tout. Et elle lui dit, mais c'est pour parler, hein, un peu cher. Et il lui dit, oui, bien sûr, c'est pour parler. Et puis quand on arrive, quand elle arrive dans la villa, il y a des copains déjà, et elle comprend tout de suite. Donc là, il lui dit, non, mais t'inquiète, les copains, ils font ce qu'ils veulent, c'est avec moi que tu dois rester. Voilà, donc l'air de dire, c'est en gros, s'il a payé quelque chose, c'est moi qui l'ai payé, c'est pour moi, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, moi. Il a déshabillé tout ça, et puis au moment où il va pour aller en elle, il se rend compte qu'elle saigne et qu'elle est très, très, très douloureuse. Donc là, il la regarde dans les yeux, il lui dit, mais t'es malade, t'es blessée, ça va pas. Et là, elle était en pleurs, et elle lui dit, bah, je peux plus, j'y arrive plus. Et lui, il lui dit, bah, rhabille-toi, j'étais pas là pour... Enfin, je vais pas te faire souffrir, donc rhabille-toi. Voilà. Ça a été la dernière fois parce que trois jours après, mon fils donc rentre du collège et un garçon du quartier qui est pas dans son collège lui demande de se voir très rapidement. Et là, il lui dit, ben, y a une vidéo dans mon collège qui circule. C'est une fille en train de se faire violer par les gars de château et par toute la clique et j'ai reconnu ta sœur. Donc là, mon fils rentre dans tous ses états, bien évidemment. Il lui dit, je veux voir cette vidéo, je veux la récupérer. Donc il lui dit, un tel a sûrement la vidéo, je l'ai vue sur son portable. Donc ils vont chez lui, et lui, il lui nie. Il dit, oui, j'ai vu la vidéo, oui, c'est ta sœur, mais non, je ne l'ai pas la vidéo. Mon fils pense qu'il lui a menti et que oui, il a vu la vidéo ce jour-là. En sachant que ce garçon-là était très très proche d'un des agresseurs de ma fille. Donc,
ils vont ramasser voilà, tous là. Tous, ils vont ramasser.
Ouais. Ça, c'est ce que j'espère, Olivier, parce qu'on n'est pas à la fin de l'histoire, parce que malheureusement... moi, quand je dépose plainte, donc j'étais au courant, mon fils m'a alerté le 18 novembre.
Oui.
Le temps que je fasse le point avec tous les médecins qui la suivent, l'équipe sociale,
que vous mettez au courant de ce qui lui est arrivé,
que je mets au courant, tout à fait. À ce moment-là, je suis au courant juste du qu'il y a un viol, en tout cas, et qu'il y a quatre garçons très reconnaissables que je connais, et qu'il faut intercepter cette vidéo, et qu'il faut que je dépose plainte, mais dans les meilleures conditions possibles, vu qu'il faut que la police puisse intervenir très rapidement. Donc, du coup, je voulais pas voir n'importe quel brigadier. Enfin, voilà. Donc, du coup, on prend rendez-vous avec avec le service où dépend ma fille de l'hôpital. On prend rendez-vous avec l'assistante sociale du commissariat de notre quartier. Et là, l'assistante sociale, après que je lui explique les faits, elle me dit, bien évidemment, il y a suffisamment d'éléments pour déposer plainte.
Oui.
Je vous prends rendez-vous avec un des agents qui sera le plus susceptible de prendre cette plainte correctement. Donc,
c'est la brigade des mineurs que vous deviez aller voir.
Non, parce qu'on est obligé de déposer plainte dans un commissariat pour qu'après les plaintes soient transférées à la brigade des mineurs. On ne peut pas y aller directement.
D'accord.
Donc, une semaine après, donc ça va faire presque 15 jours après que j'ai eu l'information, j'ai rendez-vous avec ce brigadier. Qui déjà me donne rendez-vous dans son bureau. Alors, il faut savoir que là, je dénonce un petit peu le manque de matériel de nos pauvres fonctionnaires de police parce qu'ils sont dans un bureau à trois. Il n'y a même pas 8 mètres carrés dans le bureau. Donc, j'arrive et je vois qu'il y a deux autres brigadières qui sont là et qui prennent leur déjeuner. Et moi, je suis obligée d'expliquer ce qui arrive à ma fille avec deux dames qui n'en ont rien à faire de mon histoire, qui prennent leur déjeuner, qui se racontent des blagues et qui rigolent à côté.
Non, mais c'est...
Voilà. Donc, du coup, bon, il m'a quand même gardé 2 heures. Il a été très, très attentif à mon récit, mais il ne savait pas qu'il était tellement, en fait, estomaqué par l'histoire, et encore, je ne connaissais pas la moitié, qu'il ne savait pas réellement comment prendre plainte, comment saisir ma plainte, en fait. Donc, ça a été assez long. Et à la fin, comme moi, je suis soignante et que je connais très bien les procédures à ce niveau-là, ayant travaillé aux urgences, je lui dis à quel moment il va y avoir une réquisition pour les UMG, quoi, pour avoir un médecin légiste, pour que ma fille soit auscultée. Et là, il me dit, comme vous lui avez fait faire déjà les premières prises de sang, les premières sérologies, vous avez fait le plus gros, c'est pas la peine. Moi, je m'en charge pas. Le mieux, c'est que ça soit la brigade des mineurs qui s'en charge et qui prennent tout à charge.
Oui.
Bon, d'accord. Donc, j'attends. Et puis, on m'oriente même pas vers un service d'aide aux victimes. C'est moi qui appelle la VAD. Et donc, je leur j'explique. Et là, on a une intervenante qui me reçoit dans les 24 heures. Et elle me dit, en effet, c'est pas un flagrant délit. Donc, il va falloir un petit peu attendre, malheureusement. Et la brigade des mineurs est surchargée de dossiers. Donc, il va falloir un peu attendre. Sauf qu'il se passe 15 jours, 3 semaines, 1 mois et toujours rien. Et moi, j'ai ma fille qui se tord de douleur. Les saignements, ça ne s'arrête pas. Et là, j'appelle la VAD. Elle dit, écoutez, moi, ma fille, c'est anormal, je l'amène au service des urgences. Donc, elle me dit, non, attendez, je vais quand même appeler les inspecteurs, je vais leur dire que la petite est vraiment mal. Et si on peut, dans le cadre de la procédure, qu'elle soit vue par un médecin, ça serait mieux quand même. D'accord. Ah, là, quand même, au bout de 24 heures, j'ai un rendez-vous avec une gynéco. Elle a rendez-vous, ma fille, avec une gynécologue mandatée par un magistrat. Et là, la gynécologue, elle me dit, votre fille est beaucoup trop douloureuse pour être auscultée. De toute façon, 2 mois et demi après les faits, il n'y a plus de traces, donc je ne vois pas ce que je peux faire. Donc, dans l'après-midi, je l'amène au service des urgences. Et là, au service des urgences, au bout de 2 heures, le couperet tombe. Elle a une infection généralisée.
Vous m'étonnez.
De l'appareil génital. Et puis, ils l'ont infecté de plusieurs MST dans la syphilis et qui s'est logé dans le foie et
Mon
du
Dieu.
Coup qui a attaqué gravement son foie. Donc, excusez-moi, j'ai la voix qui tremble parce que c'est difficile.
Mais
c'est pas la première fois que je raconte, c'est compliqué. Donc là, je commence à me sentir très, 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 très démunie. Je commence à avoir un peu la colère contre les services de police parce que je me dis, on a perdu peut-être des traces d'ADN vu qu'elle n'a jamais été vue par un médecin légiste dès le début, que la procédure, elle n'a pas été faite correctement. Et puis, comment ça se fait que j'ai toujours pas, on va dire, même si l'enquête préliminaire est fermée, mon avocat n'a
l'enquête, l'enquête préliminaire est fermée. Ça veut dire quand même que la police et la brigade des mineurs s'est saisie et a identifié certains violeurs quand même.
Toujours pas.
Mais comment ça se fait ça?
Ça fait 6 mois, ils sont toujours dehors.
Et ils ont... Non mais c'est...
Je vais essayer de pas trop m'étendre là-dessus parce que...
On ne vous a pas cru. Est-ce que vous pensez qu'on ne vous a pas cru?
Si on nous a cru, sauf qu'en fait le dossier n'a jamais été ouvert pendant 4 mois. Il est resté sur une pile de dossiers sur le bureau d'un agent.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, une gamine de 17 ans peut faire l'objet donc d'une tournante, de plusieurs tournantes, oui. D'être violée à multiples reprises et qu'un dossier comme celui-ci peut rester sur une pile.
C'est ça. Voilà.
Mais c'est la brigade des mineurs, c'est pas la brigade des mineurs. C'est de la faute de la brigade des mineurs de Marseille ou c'est de la faute de ce brigadier là qui a pris la plainte?
Ce qu'on va essayer de déterminer par la suite avec notre avocat. Parce que pour l'instant, en fait, donc, ce qui se passe, c'est que donc, après ces consultations, parce que le lendemain même, elle a eu quand même une consultation avec une psychologue judiciaire, qui là aussi, elle me dit le rapport, bon, c'est atroce, tout ça. Puis ma fille commence à se livrer, donc on commence à avoir plus d'éléments quand même. Donc je me dis, il y a plus d'éléments, ça va peut-être les bouger. Mais non, mois de février, constamment, notre intervenante de l'AVAD qui les a au téléphone toutes les semaines me dit, ça y est, ils m'ont dit que donc l'inspecteur qui est en charge de l'affaire m'a dit que dans la semaine là, vous allez recevoir une convocation pour qu'elle soit auditionnée et jamais. Donc fin mars, c'est la professeure principale de mon fils. Donc je reviens juste un petit peu en arrière si vous me permettez. Il faut savoir que quand les agresseurs de ma fille ont su qu'on savait, que mon fils savait, ils ont envoyé un émissaire à la sortie de son collège pour le menacer de mort si on faisait quoi que ce soit contre eux.
Vous avez eu affaire à une mafia de mineurs, mais une mafia.
Oui. Donc, du coup, mon fils n'a plus été scolarisé pendant plusieurs semaines. Et mes appels au secours auprès de l'inspection académique, j'ai eu comme réponse, c'est une situation inédite, madame. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir vous aider. Trouvez un moyen pour qu'il retourne à l'école, parce que sinon, on vous signale aux services sociaux.
C'est hallucinant ce que vous me racontez.
Oui. Donc, c'est la principale...
Tout ça, ça se passe dans le 10e arrondissement de Marseille.
De Marseille, oui.
Bah, bravo, super.
Donc, le collège en question où la vidéo a tourné n'a jamais été averti par la police. N'ont jamais su que cette vidéo tournait. Pourtant,
citez-le, ce collège, s'il vous plaît. Parce qu'il faut qu'à un moment, les gens soient mis devant leurs responsabilités. Quelle brigade exactement à Marseille?
Le 10e arrondissement, c'est le commissariat de Mireille-Loz.
Bon, voilà, il faut les mettre devant leurs responsabilités, tous ces gens-là. Parce que là, après, on va encore entendre... un ministre qui va dire je vais enquêter, mais on ne cesse d'entendre des histoires affreuses, plus affreuses les unes que les autres, hein, où on a tué encore des femmes ces derniers jours, où on se rend compte que c'était le bordel en fait, et que ces femmes n'étaient pas protégées, et qu'elles sont mortes parce qu'on ne s'est pas occupé d'elles. Et c'est la même chose pour votre fille.
Exactement.
Et pour votre fils aussi, parce que quand un môme de 15 ans est menacé de mort, je comprends même pas qu'on puisse pas intervenir dans les 24 heures.
Tout à fait. Et du coup, pourtant, notre avocat, il a essayé de faire le forcing, je peux vous assurer.
Vraiment?
Mais rien. Oui, vraiment, il s'est bougé. Vraiment, vraiment. Mais il avait jamais d'interlocuteur au téléphone. Voilà. Donc c'est là que nous avons décidé de commencer à médiatiser les faits. Donc c'est la professeure principale de mon fils, parce que finalement ma maman qui est au bout du rouleau a fini malgré tout par trouver le moyen de l'amener le matin au collège, et moi, même si j'ai interdiction de conduire parce qu'il faut savoir que je suis très malade, Donc, ben, je suis quand même allée le chercher tous les soirs à la sortie du collège, à partir du mois de février.
Parce qu'il a été contraint donc, de retourner dans ce collège.
De retourner au collège, oui. Et du coup, pourtant, c'est franchement un collège où le cadre professoral, enfin éducatif, que ce soit au niveau de la principale ou de ses adjoints, enfin, ça a toujours été des gens qui, déjà, c'est un tout petit collège, et ça a toujours été des gens qui sont toujours mis vraiment à notre disposition pour les, pour aider mes enfants, parce que mon fils aussi est porteur d'handicap. Donc, voilà, ils ont toujours fait en sorte de rendre la scolarité de mes enfants la plus facile possible. Donc, je ne voudrais pas trop, trop les incriminer non plus, mais c'est
non,
vrai
qu'ils ont vraiment... Non, mais il n'y a pas à les incriminer, eux. Situation ouais. inédite, je n'incrimine ouais. pas du tout ce collège. C'est l'académie qui vous répond, situation inédite, on va vous signaler aux services sociaux. Enfin, on marche sur la tête.
C'est ça. Et du coup, moi, la principale adjointe, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, vous savez, j'en ai vomi des matins entiers avant de venir travailler parce que je ne savais pas comment protéger votre fils et quoi faire dans cette situation. Donc, on ne nous a donné aucun moyen. Et elle m'a dit, franchement, on était dans l'attente que les policiers, que la brigade des mineurs nous appellent pour nous dire, voilà ce qu'on va faire pour protéger Mathéo. Voilà. Et ça n'est jamais arrivé.
Est-ce qu'ils ont été entendus, au moins, les auteurs, à votre avis ? Est-ce qu'ils ont été entendus ?
Ne sais pas. À l'heure actuelle, j'en ai aucune idée.
Est-ce que votre fille a été entendue et a pu décrire ?
Oui, le 26 mars,
d'accord.
Finalement.
Donc, elle a donné les noms, les prénoms, sans doute.
Tout. Les numéros de téléphone, d'accord. Les comptes Snapchat, voilà.
Donc, ça va, soyez sûr que ça va suivre son cours, hein, croyez-moi.
Mais j'espère. Vraiment, parce que depuis, on ne sait rien. Donc, notre avocat leur a laissé quand même du temps pour amorcer l'enquête préliminaire, du coup, à partir du 26 mars. Mm-hmm. Mais là, ils sont en train de dépasser le délai qu'il leur a donné d'échéance. Et du coup, il va en arriver à saisir le juge d'instruction lui-même. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient trop, quoi. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que nous, on a été contraints de déménager, bien évidemment, que notre famille s'est endettée pour nous permettre de fuir la situation, que mon mari, qui était, dans un emploi très stable, dans une entreprise qui fonctionnait très bien et avec qui on avait, parce que ça m'est arrivé de travailler pour eux aussi, vraiment une relation limite amicale, quoi, plus que cordiale. Au début, au mois de décembre, quand il les avertit que voilà, on est dans cette situation et qu'on pense partir de Marseille, ils lui disent écoute, au moment où ça sera venu, évidemment, on vous soutient et on t'aidera. Au mois de mars, où il dit ça y est, on a trouvé, la directrice lui répond donne-moi ta démission. Donc lui, il lui dit bien sûr que je ne peux pas parce que j'ai resté 4 mois sans revenu, donc c'est juste impossible. Ils connaissent très bien ma situation à moi qui suis en arrêt maladie depuis un an et demi. Et sur un mi-temps, hein, donc je gagne 400 euros par mois. Donc il lui dit, je ne peux pas me permettre d'être son revenu pendant 4 mois. Donc il lui dit, il faut vraiment qu'on négocie quelque chose. Il lui dit non, elle lui dit non, on négociera rien avec toi. C'est toi qui souhaites partir, donc assume ton choix. Donc il lui dit, mais tu sais très bien pourquoi je souhaite partir. Tu nous connais, tu connais les enfants, tu connais notre fille par cœur, notre vie. Tu sais, tu fais partie presque de la famille et tu me réponds ça. Et elle lui dit, c'est ça ou l'abandon de poste. Donc c'est toi qui choisis. Donc il lui a dit non, l'abandon de poste non plus, c'est pas possible. Donc mon mari rentre complètement décontenancé, hein, pour rester poli. Oui. Et là, moi, je lui dis, écoute, va prendre conseil auprès d'un médecin parce que tu es au bout du rouleau. Mon mari, ça faisait des semaines qu'il se cachait dans la réserve du magasin pour pleurer, pour après revenir avec le grand sourire face aux clients, quoi. Donc je lui dis non, là, ça suffit. Et qu'il sortait tous les jours pour aller travailler avec la crainte que les agresseurs de ma fille lui tombent dessus. Donc, du coup, je lui dis, va prendre conseil auprès d'un médecin. Et là, le médecin d'une permanence médicale lui dit, moi, je vous arrête pour une semaine, mais après, il faut voir le médecin généraliste pour qu'elle puisse prendre la suite. Et là, notre médecin généraliste, qui nous connaît depuis des années et qui suit nos enfants, lui dit, écoutez, dans la conjoncture actuelle, moi, je vous demande de soutenir vos patrons. Vu la perte économique et tout ça, c'est inadmissible que vous veuilliez quitter votre emploi. Vous devriez prendre sur vous, comme si ce qu'on vivait, c'était quelque chose d'anodin. Mmh. Voilà.
Bon, en gros, parce qu'on a plus beaucoup de temps, Isabelle, oui. Là, on en est où et qu'est-ce qui devrait se passer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent ?
Qu'est-ce qui devrait se passer ? J'espère que dans les semaines qui viennent, alors c'est où on a des nouvelles de la brigade des mineurs concernant l'enquête préliminaire est terminée et le juge d'instruction se saisit de l'affaire.
Parce que là, on est d'accord qu'il y a quand même, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a quand même plus d'une dizaine, voire d'une quinzaine de violeurs potentiels.
Il y en a 12.
Il y en a 12. D'accord.
Oui.
12 connus.
Donc,
12 connus.
12 connus. Enfin, il n'y en a que deux qu'on n'avait pas la même identité, mais c'est facile de faire le regroupement une fois que.
D'accord.
J'imagine.
D'accord.
Voilà. Donc, du coup, moi, l'enquêtrice qui m'a reçue, bon, elle m'a présenté 1000 excuses en me disant je reprends à peine l'affaire aujourd'hui, je suis au courant de rien. Voilà, et c'est elle qui me dit c'est inadmissible et c'est catastrophique. Et je vous présente les excuses au nom de tout le service parce que oui, le dossier est resté à pourrir. C'est elle qui me l'a dit, hein, texto comme ça. Il est resté à pourrir sur le dossier.
Et vous avez dit ça il y a combien de temps?
C'était le 26 mars.
D'accord. Bon, on peut souhaiter. Vous savez que quand une fonctionnaire comme ça vous dit qu'elle va s'investir, vous pouvez faire confiance parce que je connais un paquet de policiers de la brigade des mineurs qui sont formidables et qui prennent leur métier très à cœur. Donc vous pouvez faire confiance à cette fonctionnaire. Après, sachez que ça prend un certain temps parce qu'ils veulent être sûrs. On parle de mineurs, donc c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a une question de responsabilité toujours. Hein. Ces pauvres petits, vous savez, on ne peut pas aller aussi vite qu'avec les majeurs.
Après, comme je vous dis, il n'y en a que 3 de mineurs. Et encore, il y en a 2 qui étaient en phase de devenir majeurs cette année. Donc,
des faits, ils étaient mineurs. Donc, vous verrez qu'ils seront, de toute façon, ils seront jugés en tant que mineurs.
Mmh. Après, sur 12, il en reste même encore 9 qui sont adultes et bien adultes.
Mmh. Oui, donc, mais au moment des faits, s'ils étaient mineurs, vous verrez. J'espère que ça arrivera pour... Comment va votre fille? C'est surtout ça aujourd'hui.
Comment elle va déjà d'être partie, d'avoir changé, d'être partie
parce
loin
que vous
de Marseille.
Vous êtes partie, d'accord.
Oui, on est partie loin de Marseille. Déjà, elle revit parce que de pouvoir ressortir sans avoir peur pour sa vie, c'est un soulagement énorme. Ensuite, là, il y a des troubles, évidemment, de stress de post-traumatique qui arrivent petit à petit que le temps passe. Donc là, ça fait une quinzaine de jours que j'ai pris contact avec le CDIFF de là où nous vivons pour qu'elle soit prise en charge au niveau psychologique et puis surtout pour qu'elle ait des activités pour s'occuper l'esprit. Comment elle va? Ça dépend des jours. Voilà, elle est très forte, très très forte. Comme elle le dit, si je m'effondre, ils auront gagné. Donc il est interdit que je m'effondre. Voilà. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il paye, évidemment, qu'il soit puni. Ce qu'elle veut aussi, c'est que reprendre sa vie, quoi. Et aller de l'avant. Donc après, elle passe des nuits très très difficiles parce que c'est souvent beaucoup la nuit que tout ressort.
Est-ce que au niveau de la santé, on arrive à la soigner quand même?
Alors heureusement pour ce qui est de la syphilis, comme on l'a su dans les premiers mois de contamination, il y avait un traitement vraiment prévu pour qui agit assez vite en quelques semaines pour éliminer le virus du corps. Donc là, on doit refaire le point sur son foie d'ici quelques semaines pour voir où ça en est, mais c'était plutôt en bonne voie la dernière fois qu'on a contrôlé. Les troubles alimentaires, évidemment, ils sont très, 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 très présents, encore plus qu'avant. Mais elle tient bon, elle a des moments de bas, mais elle a envie de s'en sortir. Alors, on a pris un chiot aussi, on a adopté un petit chiot. Voilà, ça l'aide énormément de s'occuper du chien.
Est-ce que là où vous êtes, elle va être rescolarisée ou à la rentrée, ça va se passer comment?
C'est ce qu'on espère. On a reçu une assistante sociale justement de la MDPH cet après-midi qui devait faire le point justement sur qu'est-ce que la MDPH pouvait lui proposer à partir du mois de septembre. Ma fille souhaiterait pouvoir travailler dans les soins animaliers, dans un milieu protégé, bien évidemment. Donc apparemment, ça serait possible là où on est. Donc là, je lui ai appris tout à l'heure, elle était très très heureuse. Voilà, c'est que ben là, il faut qu'on rebondisse et qu'on crée des projets et que voilà, des nouveaux objectifs surtout pour elle. Pour ce qui est de notre fils, lui c'est formidable, il a une force de résilience extraordinaire, donc il est très très sportif. Donc là, il vient d'être recruté par tout des coachs pour le former. Enfin voilà, au niveau scolaire, il a rattrapé tout ce qu'il avait perdu pendant l'hiver. Il protège beaucoup sa sœur, il entoure énormément sa sœur. Il est très très protecteur, encore plus maintenant. Voilà, donc oui, ils sont tous les deux. Enfin, moi, je les admire, mes enfants. Voilà, ils m'impressionnent. Oui. Très très, franchement, ils m'impressionnent vraiment, vraiment tous les deux.
Ouais, ouais. Voilà. C'est tout de même très inquiétant. Tout ce que vous nous racontez ce soir de l'état psychologique de ces jeunes gens qui
oui.
On se demande quelles sont leurs notions de
d'empathie de, déjà
non mais même du respect
que
de la
qu'un
de, des filles
d'un être vivant.
Du respect
oui,
des de filles du respect
ouais,
de quels repères ils
vivant.
Ont ces mômes quels repères
tout
ils
à
ont
quels ils ont ouais tout à fait
c'est terrible
je sais pas c'est en fait ils ont eu un jouet entre les mains. Et voilà, et beaucoup de notre entourage nous a dit, mais finalement, je vous cache pas que j'y ai pensé aussi. On a la chance qu'elle soit en vie. Et en fait, il y a une psychologue qui m'a expliqué que quand ils ont un jouet entre les mains, tant que le jouet n'est pas cassé, ils s'en servent. Et c'est malheureusement un peu la chance qu'elle
oui,
a eue.
Oui, oui, oui.
Voilà. Donc,
elle est tout de même sacrément forte pour remonter la pente, comme vous nous le dites aujourd'hui. Alors, le chiot, tout ça, et puis vous,
oui.
L'amour dont elle est entourée aujourd'hui, c'est important. Le fait d'avoir quitté, bien évidemment, Marseille, c'est important.
Oui.
Mais ce qui sera très important, bien évidemment, c'est qu'elle ait le courage d'affronter ses bourreaux
oui.
Lors du procès.
Et lors des confrontations, d'abord.
Oui, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir déjà entendu par l'ami dont je vous parlais tout à l'heure, malheureusement, de ces viols en réunion qui font légion hein, aux quatre coins du pays, parmi des jeunes comme ça qui n'ont aucune notion du respect des filles. Il y a beaucoup de jeunes filles à qui ça arrive, malheureusement.
Oui.
Beaucoup.
Tout à fait.
Et il y a beaucoup d'histoires de viols en réunion
Mais on ne doit vraiment pas le banaliser.
Là, on ne va pas le banaliser ici ce soir, croyez-moi. Croyez une chose, c'est que la justice, par contre, ne rigole pas avec ça. Et que les peines qu'ils encourent sont quand même des peines assez lourdes. Alors, parce qu'ils sont mineurs, et qu'au moment des faits, ils étaient mineurs pour la plupart d'entre eux, les peines ne sont pas celles de majeurs, mais on parle de 7 ans, 8 ans de prison ferme.
Oui, oui.
Alors, au vu de tout, de la gravité des choses, quand même, c'est pas. Voilà, moi je trouve que c'est. Bon, remarquez, 7 ans, 8 ans, ça fait réfléchir. Mais,
oui.
Bon, croyez-moi, ça va avancer pour votre fille. Et ce jour-là, voilà, c'est important qu'il y ait des condamnations pour elle, pour qu'elle se répare, qu'elle comprenne bien qu'on punit ceux qui lui ont fait du mal.
Oui, exactement. Moi, c'est pour ça que je suis dans le combat et que je ne lâcherai rien. Donc, du coup, on a créé le collectif Justice pour Ena.
Oui, alors dites-moi, où est-ce qu'on peut vous retrouver exactement ? De toute façon, on remettra tout ça sur notre groupe de parole Facebook hein, de la Libre Antenne pour que les gens viennent, s'ils ont envie de participer à ce combat hein, pour votre fille. Dites-moi.
Tout à fait. Donc, on nous retrouve donc sur la page Facebook hashtag justice pour Ena, tout en minuscules et attachés. Il y a aussi, donc sur la page Facebook, vous pouvez retrouver les liens pour aller aussi. On vient tout récemment de créer un compte TikTok parce que chez les jeunes, ça fonctionne assez bien. Donc, on va essayer de l'alimenter le mieux possible.
Tout ça, c'est de la prévention que vous faites ?
Alors, il y a de la prévention parce que ma fille tient énormément. Elle a très peur qu'entre-temps, il y a eu d'autres jeunes filles comme elle qui soient passées entre les mains de ses bourreaux.
Oui.
Donc, ça, elle y tient beaucoup. Qu'ils soient punis aussi pour ça, hein, pour qu'ils ne puissent pas recommencer ou au moins pour que peut-être d'autres victimes aussi puissent se faire savoir. Ensuite, pour réclamer justice, aussi parce que je tiens à médiatiser ce qui est arrivé à ma fille, pour qu'on réagisse et pour faire réagir évidemment les institutions judiciaires. Donc voilà. Donc il y a et puis il y a une amie qui a créé une cagnotte Litchi pour essayer de nous aider parce que nous on a perdu plus de la moitié de nos revenus, que mes parents ne sont pas une bourse inépuisable et qu'à un moment donné ils n'arriveront plus à nous aider. Donc mon mari est maintenant en arrêt maladie et moi aussi donc on n'a même pas un SMIC pour vivre à quatre. C'est très compliqué et le temps que les aides gouvernementales se mettent en place, on n'a presque plus rien pour vivre. Donc voilà, une amie a ouvert cette cagnotte sur Litchi, toujours pareil, hashtag justice pour Ena, pour pouvoir nous aider à affronter les jours qui vont venir. Voilà, c'est donc sur le groupe, c'est un groupe ouvert, hein, les gens peuvent participer. Donc il y a plusieurs associations qui participent, qui sont solidaires, Femmes Solidaires Marseille. Il y a aussi violence, donc le collectif Viol contre les femmes, qui nous entoure et plusieurs chaînes de radio locales. Donc on avait déjà fait une émission qui le podcast est entendable sur le lien et aussi sur la page. Donc voilà, tous les jours je l'actualise et tous les jours je tiens au courant aussi de ce qui se passe autour de notre affaire, bien évidemment. Bon,
très bien. Voilà. En tout cas, on espère bien évidemment et on sera très attentifs nous ici sur Europe 1. À ce qui va se passer autour de votre fille et de vous, bien évidemment, parce que c'est la vie de toute une famille qui a explosé, là, à travers cette affaire. On comprend combien vous aussi, parents, vous devez être totalement démunis. Mais en fait, j'étais en train de me dire, il arrive un truc pareil comme ça, et on est en France en 2021, et on s'aperçoit que finalement, une situation comme ça peut vous plonger dans une précarité du jour au lendemain. Parce que, bien évidemment, comment rester à quelques centaines de mètres des bourreaux? Comment continuer à vivre pas loin de tous ces gens avec ces menaces? Et on sait en plus que ces mafias de trafiquants, de stupes, on voit qu'ils se tuent entre eux, donc qu'on peut prendre avec beaucoup de sérieux ce type de menace.
Tout à fait.
Donc je comprends que vous ayez été obligé de déménager et c'est toute
une
famille.
Ah oui, parce qu'on a vécu 5 mois. En plus, ils passaient tous les jours devant nos fenêtres pour nous rappeler qu'ils étaient là. Ou quand les seules fois je sortais, c'était pour donc aller chercher mon fils ou pour aller faire les commissions dans le supermarché d'à côté, et ils étaient là tout le temps. Donc, et mon fils est resté confiné pendant 5 mois. Entre les seuls moments où il sortait, c'était pour aller au collège, quand il n'y avait pas des périodes.
J'imagine combien il a dû être terrorisé, votre fils.
Ah, complètement.
Parce que je peux vous dire que moi, je me rappelle quand j'étais petit, qu'il y avait des mecs qui menaçaient de me casser la gueule à la sortie. Je peux vous dire que j'y pensais toute la journée, que ça m'obsédait et que ça me faisait peur.
Ah,
donc
oui.
Là, on est avec des loulous qui trafiquent des stupes et qui sont violents. Donc, vu ce qu'ils ont fait à votre fille, croyez-moi qu'il y a une violence. Il y a une violence chez ces mineurs qui est très inquiétante, quand même.
Mon fils, ce qu'il pense, c'est qu'ils sont allés. Je sais pourquoi notre fille, lui, il pense que c'est directement lié à lui, hein, mon fils. Parce que lui, il s'est interposé plusieurs fois contre justement des tentatives d'essayer de. Déjà, lui, ils sont venus le voir en lui disant 150 euros la journée pour faire le chou, puis 200 euros, puis 250 euros. Ils ont monté les enchères, puis il n'a jamais accepté. Ensuite, comme c'est un champion de sport de combat et qu'il est assez connu pour ça, il a certains petits gamins du quartier qu'il a essayé de garder sous son aile pour pas qu'ils soient aussi absorbés par ça. Et ça n'a pas plu du tout. Donc, mon fils se pose la question si ce n'est pas en représailles justement du fait qu'il se soit opposé à tout ça, qu'ils sont arrivés jusqu'à sa sœur.
On parle de gamins de 14-15 ans, vous vous rendez compte?
Oui.
Bon.
Oui.
Écoutez, en tout cas, vous qui nous écoutez, vous retrouverez toutes les références des pages dont vous nous avez parlé.
Hein, oui.
Et j'espère que, voilà, j'espère que, en tout cas, votre fille va se remettre tout doucement de tout ça. Et bon, oui. vous nous tenez au courant, bien évidemment, Isabelle.
Bien sûr,
vous n'hésitez pas, d'accord ?
Mais en tout cas, merci, vraiment merci pour votre accueil, pour le temps que vous m'avez consacré.
Non, mais c'est normal. C'est normal et parce que le temps qui vous a été consacré ce soir, il est consacré à tous ces parents et tous ces enfants, surtout, qui affrontent l'horreur d'une telle situation, parce que malheureusement, je le répète, ça arrive très souvent, chaque semaine, il y a des histoires de viols en réunion faits par des mineurs.
C'est atroce.
Et c'est atroce, c'est atroce. Moi, j'ai une fille de 16 ans, donc voilà, c'est atroce, complètement.
Oui, tout à fait. Merci encore pour tout, Olivier.
Merci
à
vous pour votre appel, pour votre courage. Et puis, embrassez bien la petite pour nous, d'accord ?
Ça sera fait, promis. Merci encore à toute l'équipe aussi. Au revoir.